En ce premier dimanche de septembre, vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, c'est Ridouane Esbanti au micro, en direct, depuis Mialet, en Cévennes, pour vivre avec vous le rassemblement annuel de l'Assemblée du Désert. Je salue les auditeurs de l'Esprit Public et remercie Émilie Aubry de nous laisser sa place comme chaque année. Assemblée du Désert, lieu de mémoire pour le protestantisme français. Si vous ne connaissez pas l'Assemblée du Désert, sachez qu'elle rassemble chaque année, le premier dimanche de septembre, des milliers de protestants. On estime aujourd'hui entre 15 et 20 000 personnes réunies pour un culte en plein air. Des protestants qui font mémoire aux générations précédentes, persécutées pour leur foi au XVIIe et XVIIIe siècle. Des protestants qui se rassemblaient dans un lieu désert, c'est pour ça qu'on appelle ça l'Assemblée du Désert, avec le risque d'être arrêtés et condamnés aux galères à vie. Le thème proposé cette année 2018 est « Femmes du désert ». Et quand on parle de femmes, évidemment, c'est la figure de Marie Durand, qui en 1768, cette femme native du boucher de Prenles en Vivarais, âgée de 57 ans, sortait de la tour de Constance, la prison des femmes religionnaires, autrement dit protestantes, à Aigues-Mortes. Elle y était entrée à l'âge de 19 ans, arrêtée avec son mari. Le 250e anniversaire de la libération de Marie Durand, par grâce princière, sans avoir abjuré pendant les 38 années de sa captivité, donne l'occasion de revenir sur cette figure majeure de la mémoire du désert pour cette assemblée. Le culte de ce matin est présidé par la pasteur Sophie Zenz-Amedro de l'Église protestante unie de France à Orange et Carpentras.
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. Notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes sœurs, mes frères, écoutez comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces paroles nous conduisent maintenant dans la prière d'humilité, avec ces mots du temps de la Réforme. Mes frères, en présence du Dieu Saint, que chacun de nous confesse humblement ses péchés, en suivant du cœur ses paroles. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta Sainte Majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et qui transgressons tous les jours et en plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé, et nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une vraie repentance, recourant humblement à ta grâce et te suppliant de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes et en étant vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prolonger notre prière en chantant au cantique 405, les strophes 1 et 2. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. De la part du Seigneur, l'assurance de leur pardon. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Chantons notre reconnaissance au psaume 47, les strophes 1 et 3, frappez dans vos mains, vous tous les humains. Ne te prions que ton souffle de vie éclaire pour nous la parole que nous allons entendre, qu'elle nous interpelle, nous bouscule, nous ressource et qu'elle devienne bonne nouvelle pour notre existence. Que par ton esprit cette parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, qu'elle nous ouvre à une espérance renouvelée. Nous te le demandons. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons deux passages dans l'Épître aux Romains. Tout d'abord, au chapitre 4, les versets 13 à 25. Car ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. En effet, si l'on devient héritier par la loi, alors la foi est sans contenu et la promesse abolie. Car la loi aboutit à la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant, contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Au chapitre 8, les versets 18 à 27. J'estime en effet, poursuit Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Ta parole, Seigneur, et pour nous la vérité, guide-nous sur ce chemin de vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 243, les strophes 1 à 4. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Sa confiance en une promesse ouvrant sur tous les possibles. Par grâce et dans la foi, entrer dans le monde nouveau de Dieu. Voilà ce que nous affirme l'apôtre Paul dans ces deux passages de l'Épître aux Romains. En Christ, Dieu s'est donné, révélé jusqu'au bout, pleinement, au cœur du mal, de la violence et de la mort, pour nous ouvrir à tous les possibles, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore, appeler à la résurrection ce qui a été crucifié, appeler à la délivrance ce qui est encore dans les douleurs de l'enfantement. Oui, en Christ, la création tout entière est renouvelée, l'humanité est sauvée en espérance. La rédemption, le salut, la vie sont donnés, manifestés pleinement au Golgotha et au matin de Pâques. Notre résurrection pleine et entière est encore à venir. Nous sommes sauvés, dit Paul, mais en espérance. Voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, nous sommes pleinement appelés à la vie. Mais ce déjà-là s'inscrit dans un pas encore à venir, que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, mais que nous espérons avec foi dans l'attente persévérante. L'espérance se tourne vers un avenir où ce qui n'existe pas est appelé à l'existence. Ce qui est crucifié est ressuscité. Ce qui est condamné est justifié. Ce qui est stérile, vieux et presque mort par la parole et la promesse, deviendra le père d'une multitude. Difficile de dire cette réalité du salut, Paul cherche à faire comprendre à la communauté des chrétiens de Rome ce qu'est la foi au Christ ressuscité. Pour cela, il prend un exemple, une figure de foi et d'espérance qui rassemble les croyants à travers l'espace et le temps. Abraham. Abraham partit pour une destination inconnue. Cet homme quitte père, mère, terre, religion, culture, parce qu'un Dieu l'appelle, parce qu'un Dieu le nomme, parce qu'un Dieu le pousse vers un ailleurs impossible, jusque-là impossible. Abraham met sa foi en cette parole donnée, en cette promesse de vie. Toute son existence alors est nourrie de cette parole créatrice, donnant sens et vérité à sa marche et ses années. Une parole de vie, une parole puissante, attendue de lui qu'il soit debout, en vis-à-vis, qu'il devienne un être engagé, un être libre, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Espérant contre toute espérance, Abraham a regardé devant, répondant ainsi à la parole divine par la foi et la confiance. Un homme devient vraiment libre, disait Jacques Ellul, lorsqu'il décide d'espérer. Abraham est devenu libre en mettant son espérance en ce Dieu qui a la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Pour Paul, le Dieu d'Abraham est le Dieu de Jésus-Christ. Il y a une continuité de révélation, un accomplissement ultime en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Continuité dans l'inaccompli, déjà là tout en étant encore à venir, ici et pas encore, présent en espérance. Ce Dieu de la promesse, de la parole adressée à l'humanité, à la création, est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, notre Père à tous, le Dieu du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce Dieu-là nous appelle, nous aussi, à une espérance contre toute espérance. Le mal est. Qui pourrait le nier? La violence, la guerre, la misère, la peur, l'orgueil et la vanité, l'injustice et les maladies. Oui, notre monde, notre existence, l'histoire humaine, tout est marqué par le mal sans que nous puissions l'expliquer, en définir la cause et la finalité. Il est là, et bien là, indépendamment des hommes ou inhérent à leurs actions, décisions et pouvoirs. L'apôtre le connaît, ce mal, le décrit, le traverse. Le Christ lui-même l'a connu au plus profond de son humanité pour le transcender à l'eau pascale et donner à l'humanité une espérance au-delà de toute espérance. La volonté de Dieu se révèle au-delà des réalités visibles ou prévisibles. Le monde nouveau de Dieu, son royaume, son règne, est bien au-delà de ce que nous pouvons voir, comprendre, imaginez. Comme le printemps au cœur de l'hiver, il est à venir sans que la réalité tangible puisse en témoigner. C'est notre foi qui révélera cette espérance. C'est notre foi qui, en une espérance engagée, posera les signes de la résurrection. C'est notre foi qui, par grâce, annoncera la délivrance dans les douleurs de l'enfantement. C'est par notre foi, active, libre, d'être debout, d'être en relation avec le Dieu de la promesse, que nous serons les témoins de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre. Espérez contre toute espérance. Ne nous épargne pas le mal, la douleur, les questions, le doute. Croire au Dieu de la promesse, c'est croire au Dieu incarné, aux prises avec la réalité créée. C'est croire au Dieu qui accompagne au travers du mal et des malheurs. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu qui traverse le mal et la mort, qui assume au cœur de son être même cette réalité pour la transcender, la dépasser. Il est là. Il est là à nos côtés, présent auprès de chacun dans les épreuves vécues. Il est vivant et aimant dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Bien sûr, certains pensent et disent qu'il est absent, qu'il est bien silencieux, passif. Que notre monde serait bien différent s'il existait vraiment. Mais voudrions-nous être des marionnettes tributaires d'un Dieu tout-puissant, omnipotent ? Le Dieu de la promesse est un Dieu d'altérité et de proximité, un Dieu de vérité et d'amour, un Dieu de vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu qui peut être silencieux, oui. Mais c'est pour laisser une place à la parole de l'homme et qu'il soit vraiment libre. Le silence de Dieu n'est pas alors l'absence de Dieu, mais un espace et un temps où le croyant dans sa prière élève son cri d'espérance vers Dieu. Car élever sa prière vers Dieu, n'est-ce pas pratiquer l'espérance ? Prier avec des mots fragiles, maladroits, indicibles parfois, des mots humains pour dire à Dieu notre espérance en ce qui n'existe pas, mais qu'il peut, lui, par sa puissance, appeler à l'existence. Prier pour regarder plus loin que le quotidien. Avoir l'assurance que notre vie, notre monde, ne se réduisent pas à ce que nous en voyons. Puiser dans la parole donnée, le flux vivant d'une prière pleine d'espérance, ne pas nous satisfaire des injustices, des misères, des violences, des absurdités de notre existence et de nos sociétés. Priez pour que le sens et la vérité soient le guide de notre marche. Priez pour être et rester en lien, en dialogue avec celui qui nous a donné la vie, notre identité, notre destinée. Priez pour porter nos frères et nos sœurs dans l'intercession, dans une espérance d'une création réconciliée, renouvelée. La prière nourrit de la présence Vivifiés de la parole, portés par le souffle de l'esprit, nous pousse à la compassion, à regarder les hommes et les femmes qui nous entourent comme des frères et des sœurs. Priez pour que notre action soit pleine d'amour et de respect entre humains et dans le monde. Maintenant qu'en Christ l'homme est réconcilié avec Dieu, la création tout entière peut se réconcilier avec l'homme. Si nous vivons en fraternité, alors la création sera renouvelée. Si nous mettons du lien entre nous, alors nous saurons prendre soin du vivre ensemble et de la terre habitée. Être réconciliés en Christ nous pousse à espérer une vie réconciliée entre humains, une vie pacifiée, unifiée, pardonnée. C'est bien cette espérance, profondément ancrée dans l'amour et le pardon, vécue dans la non-violence, le respect et l'attente persévérante, que Marie Durand et toutes ses compagnes de captivité dans la tour de Constance ont vécu. Des décennies de résistance dans l'espérance. Des décennies de douleur et de gémissement, d'aigreur et de déception, de faim et de froid, de maladie et de mort, avec la foi chevillée au cœur et au corps, espérant contre toute espérance, vivifiée par la prière vive et chantée, les psaumes récités, les lectures méditées, cette parole vivante comme un refuge, les silences et les cris, la reconnaissance et la peine, la compassion, ce mal d'entrailles dont parlait Marie Durand, et les abnégations. Ces femmes prisonnières espéraient contre toute espérance. Elle trouvait force et courage pour tenir et continuer à vivre, pour aimer et pardonner. Persévérant dans leur foi, elles exprimaient ainsi une fidélité qui les dépassait. Il y a 250 ans, Marie Durand, avec quelques compagnes, sortait de la tour libre, profondément libre. Même si leur vie de femme fut emmurée à Aigues-Mortes, leur foi au Dieu de tous les possibles, leur espérance au-delà de toute espérance, les rendait libres et vivantes. Plus près de nous, il y a tout juste 50 ans, celui qui avait trouvé sa raison de vivre, son combat pour la liberté, son combat plein d'espérance, tombait brutalement. Il espérait contre toute espérance que le peuple américain reconnaîtrait et respecterait l'identité et la dignité de l'homme noir. Abraham Lincoln avait pourtant aboli un siècle auparavant l'esclavage. Mais là encore, les lois humaines avilissaient, anéantissaient ce qui était différent. Martin Luther King puisait sa force et son courage dans la parole de Dieu, dans la promesse d'une vie libre et digne, d'une vie remplie d'amour et de pardon. Lui aussi avait à cœur de vivre la non-violence annoncée dans l'Évangile. Lui aussi se ressourçait des chants et des psaumes, des gospels et des prières. Lui aussi était empreint de compassion, voulant soulager la misère, les douleurs de ses frères. Lui aussi avait mis sa foi en Dieu, le Dieu qui par sa puissance peut faire exister ce qui n'existe pas. Quelques heures avant sa mort, il prononçait un discours affirmant cette espérance qu'il ne voyait pas là concrètement à Memphis le 3 avril 1968, mais dont il était vraiment assuré. Eh bien, je ne sais pas ce qui va m'arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allée jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a été permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Attendre avec persévérance dans l'espérance. Nous le savons, la réalité pour les Africains américains n'est toujours pas celle de la terre promise. Les inégalités, les violences et les souffrances perdurent. La résistance pleine d'espérance, lancée par Rosa Parks en 1955, soutenue et guidée par le pasteur Baptiste et bien d'autres, se poursuit encore. Aujourd'hui, osons cette espérance au-delà de toute espérance. Oui, avec force, courage et audace, annonçons les signes de la résurrection dans notre monde, dans notre temps. L'espérance n'est pas oubliée. Ravivons-la. Mettons-nous à l'écoute de la parole, de la promesse. Posons des signes de réconciliation, des gestes d'accueil, de respect, de pardon, des signes de fraternité pour un vivre ensemble, tourné vers l'espérance, où l'autre n'est pas un objet utilisé, sacrifié, manipulé, mais pleinement considéré. Posons des signes de liberté où nous ne cherchons pas à justifier ce que nous sommes, ce que nous faisons, nous n'en avons plus besoin. Nous sommes justes et justifiés en Christ. Laissons là la vanité, l'orgueil, les pouvoirs, les puissances pour nous tourner vers Dieu et lui dire simplement « Que veux-tu de moi ?» Des signes de vie, de paix, de solidarité, de tolérance, où l'espérance nourrit l'engagement. Alors la fatalité, l'indifférence, les « on ne peut rien faire » seront balayés pour résister, combattre, œuvrer, proclamant ainsi « on ne peut pas ne rien faire ». N'oublions pas l'espérance. C'est elle qui nous fait vivre, nous rend libres et nous ouvre au sens et à la vérité. Espérons, au-delà de toute espérance, un monde nouveau que nous ne voyons pas, mais que nous annonçons et attendons avec persévérance. Espérons dans la foi au Dieu qui fait exister ce qui n'existe pas. Espérons, sans baisser les yeux, sans baiser les bras, sans courber le dos. Espérons au travers de la parole et du silence, du chant et des prières. Espérons au-delà de ce que nous imaginons, pensons, au-delà de la réalité, au-delà des possibles. La volonté de Dieu est peut-être ailleurs. Espérons encore plus loin, simplement avec confiance. Ce que Dieu dit sera. Ce que Dieu fait est possible. Il a appelé Abraham et fait naître une autre humanité. Il a ouvert la mer Rouge. Moïse et le peuple sont passés. Il a fait naître l'Évangile au-delà du légalisme, de la violence, du pouvoir des hommes, par-delà la croix, au sommet du Golgotha, au creux de la mort. Il met en route des hommes et des femmes croyant en ce crucifié, ressuscité. Il fait que cette parole vivante est transmise de génération en génération, proclamée, prêchée, au cœur des épreuves, au temps des déserts, des fanatismes et des pouvoirs, de la technique et de l'athéisme, de la toute-puissance et des multiples guerres. Oui, aujourd'hui, avec foi, espérons contre toute espérance. Amen. Nous nous levons pour chanter au cantique 628, les strophes 1 à 4. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles.
Le culte va prendre un temps de pause pour la collecte, puisque vous savez, la séparation de l'Église, l'État amène justement à ce que les croyants de chaque confession puissent participer au financement et à la vie de leur communauté. Je profite de ce moment pour faire mémoire à Michel Schaeffer qui, pendant 10 ans, était à ce même micro, fidèlement. C'était un temps qui lui était cher et c'est avec beaucoup d'impatience qu'il attendait ces rassemblements de l'Assemblée du Désert. Nous voulons profiter de ce moment aussi pour partager en mémoire, rappeler ce qu'il a été. Et pour cela, j'ai invité le pasteur Michel Bertrand, qui était le président de la commission du service radio de la Fédération protestante de France, et qui était celui qui a accueilli dans le service radio Michel Schaeffer. Bonjour Michel Bertrand.
Bonjour.
Voilà, donc comment pourrait-on décrire Michel dans un univers, ou plutôt c'est le visuel qui est important, on entend une voix qui crie dans le désert.
Oui, s'il fallait qualifier d'un mot Michel Schaeffer et son travail, son service à la radio, je dirais Michel Schaeffer, c'est d'abord une voix. Une voix chaude et chaleureuse, j'oserais dire une voix radiophonique. C'était devenu d'ailleurs une voix familière qui donnait sa coloration à cette émission du service protestant. Il était devenu, par sa voix, un invité familier de nombre de foyers, de maisons, un ami, presque, de personnes qui, dimanche après dimanche, écoutaient ce service protestant qu'il animait avec tant de talent.
Cette voix, donc, elle traversait, disons, l'espace pour rejoindre les auditeurs. Et c'est vrai, comme vous dites, nous avons eu quelques témoignages de personnes qui ont été peinées, enfin, qui vraiment ont été sensibles à cette disparition. Mais ce qui est important aussi, c'était sa responsabilité. Être responsable du service radio, c'est porter aussi les différentes spiritualités, les différentes sensibilités du protestantisme français, qui est chacun tire un petit peu de son côté, hein, du cultuel, du culturel. Comment Michel se situait-il sur cette ligne-là?
Pour être un homme de la voix, être un homme de la parole, une femme de la voix, une femme de la parole, nous venons d'en avoir une belle illustration, il faut d'abord être un homme et une femme de l'écoute. La radio parle, mais une radio qui parle, c'est d'abord une radio qui écoute. Et c'était aussi la responsabilité de Michel Schaeffer d'être à l'écoute. Et il était à l'écoute, c'était pas tout simple, de multiples partenaires. Je dirais d'abord qu'il était, comme vous venez de le dire, à l'écoute des auditeurs. Il avait le souci de répondre à la grande diversité des attentes qui composaient l'auditoire dimanche après dimanche du service protestant. Il était aussi attentif et à l'écoute des exigences du service public de France Culture, qui était la radio sur laquelle était positionné ce moment. Et de ce point de vue, il faut souligner le professionnalisme de Michel. Michel était un professionnel, c'était un journaliste. Il avait, j'oserais dire, les codes pour entrer dans cette grande maison, pour entrer dans cette grande famille. J'ai toujours été frappé par la qualité des relations qu'il a eues avec les professionnels de la maison de la radio. Et puis, bien sûr, il était aussi à l'écoute de la Fédération protestante de France, au service de laquelle il avait été appelé. Et comme vous venez de le dire, la Fédération protestante, c'est aussi une grande famille. Et une grande famille aussi très diverse, avec chacun ses attentes, ses qualités, ses styles. Et il avait, en quelque sorte, dans son cahier des charges, si je puis dire, le devoir de donner la parole à ces différentes familles. Et il a su le faire. Il a su, pour cela d'ailleurs, gagner la confiance de tous ses partenaires et notamment des pasteurs qui dimanche après dimanche animaient ce temps spirituel.
Justement, vous dites beaucoup de professionnalisme. C'est vrai que c'était un homme de radio, c'était un journaliste très performant. Professionnalisme aussi théologique, parce qu'il y avait une spiritualité chez lui qui n'était, il n'était pas pasteur, il n'était pas théologien, et pourtant il avait la responsabilité de la qualité de ce que les pasteurs devaient dire au micro.
Oui, il a beaucoup aidé les pasteurs, il nous a beaucoup aidé, puisque vous comme moi, nous avons participé à ces moments spirituels. Et il avait une vraie exigence au niveau de l'expression. il illustrait parfaitement ce que Victor Hugo disait, hein, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et il expliquait, à cause justement de l'importance de la voix, du dire, de la parole, qui est finalement le seul support à la radio, de soigner cet aspect, ne pas parler trop vite, bien timbrer sa voix, bien la placer, prendre le temps. Il nous a beaucoup appris en ce domaine.
Voilà, et ce qui était important aussi dans ce que vous dites, c'est la manière dont il a réussissé entre la maison de la radio et le 47 rue de Clichy, c'est-à-dire que le siège de la Fédération protestante, de créer cette passerelle entre l'espace public et l'espace privé. C'est vous, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui a fait que ces deux espaces vous ont intrigué, vous ont attiré aussi dans la commission radio? Pourquoi la radio?
Bien, la radio, parce que avoir la possibilité sur une radio comme France Culture de parler de Dieu, d'annoncer Jésus-Christ, d'étudier la Bible, est une chance inouïe de porter la parole, qui fait vivre le croyant dans l'espace public. C'est un lieu tout à fait privilégié et j'oserais même dire tout à fait approprié au protestantisme. Pourquoi ? Et on revient à la question de la voix. Parce que les réformateurs nous ont appris que ce qui avait autorité sur nos vies, ce n'était pas la lettre du texte écrit, c'était la parole de Dieu qui se disait à travers ces textes écrits. À l'écart de toute forme de fondamentalisme, c'est la parole portée par une voix, la voix d'un témoin. Luther disait, ce qui est important, c'est la viva vox, la parole vive. Et la radio, c'est ça, c'est la parole vive. Qu'est-ce qu'il y a à la radio, sinon cette voix ? On n'est pas comme à la télévision, on a le support de l'image, on n'est pas comme quand on vit un culte comme nous venons de le vivre en direct, où il y a des regards, où il y a des sourires, où il y a des personnes qui sont là. La radio, c'est une voix. C'est une voix qui s'adresse à un nombre important de personnes et qui en même temps rejoint chacun dans son intimité. Et je me suis souvent appuyé sur cet exemple de la radio pour dire à des étudiants: quand vous prêchez, vous ne prêchez pas à un groupe, même quand il est rassemblé devant vous. Mais prêcher, annoncer la parole de Dieu, c'est parler à une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Et ça, la radio nous l'apprend. Parler de Dieu à la radio, c'est s'adresser à une personne, même si on sait qu'on en touche des centaines et des milliers.
L'Assemblée du désert, c'est un espace, on va dire, privé. Et en même temps, c'est un espace public, puisque nous faisons cette retransmission à travers les ondes, qui va au-delà de cet espace privé. Comment pourrait-on analyser cela? Quel est votre regard? Quelle contribution les églises, quand elles sortent de cet espace privé, peuvent-elles apporter à la société, à la République?
Moi, je pense que si on veut résister à toutes les formes de communautarisme rampant, et parfois plus que rampant, qui existent dans notre société, il faut affirmer, et je crois que la laïcité non seulement l'autorise, mais elle le permet et l'organise, les religions sont dans l'espace public. Les religions sont dans l'espace public. Et même si la pasteur tout à l'heure a commencé en disant « frères et sœurs », ce « frères et sœurs » ne touchait pas que des protestants. D'ailleurs, ici même, il n'y a pas que des protestants. Ce « frères et sœurs » est une manière de dire que l'humanité, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, je crois profondément que ce que nous vivons ici ce matin, c'est un bout de l'espace public. Parce qu'ici, il y a des gens de toutes confessions qui sont là. Bien sûr, il y a une majorité de protestants, mais il y a d'autres familles confessionnelles chrétiennes. Il y a sans doute des agnostiques, des athées, je le sais parce que j'en ai croisé quelques-uns, qui viennent là pour entendre une parole. Et puis, nous sommes en ce moment sur France Culture. Et donc, nous sommes sortis aussi de cet espace plus ou moins clos, de cette assemblée du désert, même si nous sommes en plein air, mais nous sommes sur les ondes, et donc nous sommes dans l'espace public. Et les médias sont un outil formidable pour faire vivre l'espace public, même si on pourrait parfois regretter qu'elle ne joue pas suffisamment ce rôle d'animateur du débat dans l'espace public, nous donnant plus de réponses que elle ne suscite de questions.
Merci Michel Bertrand. Et puis je dirais adieu l'ami Michel Schaeffer. Nous continuons à relayer cette parole à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé pour que nous puissions contribuer à, disons, au vivre ensemble dans la, au sein de la République. Nous revenons à l'Assemblée du désert avec la continuation du culte, donc le culte qui est présidé toujours par la pasteur Sophie Zenz Amedro, pasteur de l'Église protestante unie de France à Orange et Carpentras. Nous allons terminer cette retransmission du culte de l'Assemblée du désert qui a été présidée par la pasteur Sophie Zenz Amedro de l'Église protestante unie de France à Orange et Carpentras. Un grand merci à l'équipe technique de Radio France qui a permis de pouvoir faire cette retransmission aujourd'hui. Je pense à Laurent... Laurent Lucas, à Frédéric Cayrou. Comme vous voyez, c'est dans l'émotion et dans la précipitation. Un grand merci aussi à l'équipe de Radio France à Paris. Cette émission vous a été proposée par Redouane Esbanté pour la Fédération protestante de France. Sachez que le texte de la prédication sera disponible sur le site de France Culture ainsi que sur le site de la Fédération protestante de France dès demain. Si vous désirez recevoir le texte du culte par courrier, vous pouvez écrire à la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Dans quelques instants, la suite des programmes avec Caroline Brouet pour les bonnes choses. Bon dimanche à tous.
La communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons au psaume 138, les strophes 1 à 3.